Tensions diplomatiques. Les ambassadeurs des deux puissances ont échangé des vues au sujet de la question du Maroc. Les journaux, été 1911. Quand le second eut sonné au clocher du village, une demi-heure avant le dernier coup de cloche annonçant la messe du dimanche, le grand Lebrac, vêtu de sa veste de drap taillée dans la vieille anglaise de son grand-père, culotté d'un pantalon de droguet neuf, chaussé de brodequins ternis par une épaisse couche de graisse et coiffé d'une casquette à poils, le grand Lebrac, dis-je, vint s'appuyer contre le mur du lavoir communal et attendit ses troupes pour les mettre au courant de la situation et les informer du plein succès de l'entreprise. Là-bas, devant la porte de Fricot l'aubergiste, quelques hommes, le brûle-gueule aux dents, se préparaient à aller piquer une larme avant d'entrer à l'église. Camus arriva bientôt avec son pantalon limé au jarret et sa cravate rouge comme une gorge de bouvreuil. Ils se sourirent. Puis vinrent les deux gibus, l'air flaireur. Puis Gambette, qui n'était pas encore au courant. Et Guignard, et Boulot. La Crique, Guéreillas, Bombay, Tétas, et tout le contingent au grand complet des combattants de Longeverne, en tout une quarantaine. Les cinq héros de la veille recommencèrent au moins 10 fois chacun le récit de leur expédition. Et, la bouche humide et les yeux brillants, les camarades buvaient leurs paroles, mimaient les gestes et applaudissaient à chaque coup frénétiquement. Ensuite de quoi Lebrac résuma la situation en ces termes. « Comme ça, ils verront si on en est des couilles molles. Alors sûrement, cet après-midi, ils viendront se rétraîner par les buissons de la Saute, histoire de chercher rogne, et on y sera tous pour les recevoir un peu. » Faudra prendre tous les lance-pierres et toutes les frondes. Pas besoin de s'embarrasser des trics, on ne veut pas se colter. Avec les habits du dimanche, il faut faire attention et ne pas trop se salir, parce que on se ferait baigner en rentrant. Seulement, on leur dira deux mots. Le troisième coup de cloche, le dernier, sonnant à toute volée, les mit en branle et les ramena lentement à leur place accoutumée dans les petits bancs de la chapelle de Saint-Joseph, symétrique à celle de la Vierge où s'installaient les gamines. Foutre ! Dit Camus en arrivant sous les cloches. « Et moi que je dois servir la messe aujourd'hui, je vais me faire engueuler par le noir !» Et sans perdre le temps de plonger sa main dans le grand bénitier de pierre où les camarades gavouillaient en passant, il traversa la nef en filant tel un zèbre pour aller endosser son surplis de turiféraire ou d'acolyte. Quant à l'aspergesmé, il passa entre les bancs, portant son baquet d'eau bénite où le curé faisait trempette avec son goupillon, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur ses frères d'armes. Il vit Lebrac montrant à Boulot une image que lui avait donnée la sœur de Tintin. Une fleur de tulipe ou de géranium, à moins que ce ne fût une pensée, soulignait du mot « souvenir ». Et il clignait de l'œil d'un air don juanesque. Alors Camus songea lui aussi à la Tavie, sa bonne amie, à qui il avait offert dernièrement un pain d'épices, de 2 sous s'il vous plaît, qu'il avait acheté à la foire de Vercelles. Un joli pain d'épices en cœur, saupoudré de bonbonnets rouges, bleus et jaunes, orné d'une devise qui lui avait semblé tout à fait très bien. « Je mets mon cœur à vos genoux, acceptez-le, il est à vous. » Il la chercha de l'œil dans les rangs des petites filles et vit qu'elle le regardait. La gravité de son office lui interdisait le sourire, mais il eut un choc au cœur et, légèrement rougissant, se redressa le bidon d'eau bénite à son poignet raidi. Ce mouvement n'échappa point à la Crique qui confia à Tintin. « Regarde donc Camus, il se rebraque. On voit bien que là t'as vu le reluque. » Et Camus en lui-même pensait. « Maintenant que c'est l'école, on va se revoir plus souvent. » « Oui. » Mais la guerre était déclarée. À la sortie de l'office de Vêpres, le grand Lebrac réunit toutes ses troupes et parlant en chef. « Allez mettre vos blousons, prenez un chanteau de pain et rappliquez au bas de la Saute à la carrière à Pépiot. » Ils s'écampillèrent comme une volée de moineaux, et 5 minutes après, l'un courant derrière l'autre, le quignon de pain aux dents, se rejoignirent à l'endroit désigné par le général. « Faudra pas dépasser le tournant du chemin, » recommanda Lebrac, conscient de son rôle et soucieux de sa troupe. « Alors, tu crois qu'ils vont venir ?»« Autrement, ce serait rien foireux de leur part, » et il ajouta pour expliquer son ordre. « Il y en a qui sont lèses, vous savez. Les culours, t'entends, Boulot, hein ? S'agit pas de se faire chipper. Prenez des godons dedans vos poches. À ce qu'on défronde à la stique, « Donnez-y les beaux cailloux et attention de ne pas les perdre. On va monter jusqu'au gros buisson. » Le communal de la Saute qui s'étend du bois de Teuré au nord-est au bois de Velleran au sud-ouest, est un grand rectangle enramblé, long de 1500 mètres environ et large de 800. Les lisières des deux forêts sont les deux petits côtés du rectangle. Un mur de pierre doublé d'une haie protégée elle-même par un épais rempart de buissons le borne en bas vers les champs de la fin. Au-dessus, la limite assez indécise est marquée par des carrières abandonnées, perdues dans une bande de bois non classée, avec des massifs de noisetiers et de coudriers formant un épais taillis que l'on ne coupe jamais. D'ailleurs, tout le communal est couvert de buissons, de massifs, de bosquets, d'arbres isolés ou groupés qui font de ce terrain un idéal champ de bataille. Un chemin ferré venait du village de Longeverne, gravit lentement en semi-diagonale le rectangle, puis à 50 mètres de la lisière du bois de Velleran, fait un contour aigu pour permettre aux voitures chargées d'atteindre sans trop de peine le sommet du créteau. Un grand massif avec des chênes, des épines, des pruneliers, des noisetiers, des coudriers, enfin la boucle du contour, on l'appelle le gros buisson. Des carrières à sel ouvert exploitées par Pépio le bancal, l'augu du moulin qui s'intitule entrepreneur à prévoir, et quelquefois par Abel le rat, bordent le chemin vers le bas. Pour les gosses, elles constituent uniquement d'excellents et inépuisables magasins d'approvisionnement. C'était sur ce terrain fatal, à égale distance des deux villages, que, depuis des années et des années, les générations de Longeverne et de Velleran s'étaient copieusement rossées, fustigées et lapidées, car tous les automnes et tous les hivers, ça recommençait. Les Longevernes s'avançaient habituellement jusqu'au contour, gardant la boucle du chemin, bien que l'autre côté appartint encore à leur commune, et le bois de Velleran aussi, mais comme ce bois était tout près du village ennemi, il servait aux adversaires de camp retranché, de camp de retraite et d'abri sûr en cas de poursuite, ce qui faisait rager le braque. « On a toujours l'air d'être envahi, nom de Dieu !» Or, il n'y avait pas 5 minutes qu'on avait fini son pain, que Camus le grimpeur, posté en vigie dans les branches du grand chêne, signalait des remuements suspects à la lisière ennemie. « Quand je vous le disais, constata le braque, qu'allez-vous, hein, qu'il croit que je suis tout seul. Je m'en vais à les ousxer. Xx, attrape ! Et si des fois il se lançait pour me prendre, hop !» Et le braque, sortant de son couvert d'épines, la conversation diplomatique suivante s'engagea dans les formes habituelles. Que le lecteur ici ou la lectrice veuille bien me permettre une incidente et un conseil. Le souci de la vérité historique m'oblige à employer un langage qui n'est pas précisément celui des cours ni des salons. Je n'éprouve aucune honte ni aucun scrupule à le restituer, l'exemple de Rabelais mon maître m'y autorisant. Toutefois, messieurs Falière ou Béranger ne pouvant être comparés à François Ier, ni moi à mon illustre modèle, les temps d'ailleurs étant changés, je conseille aux oreilles délicates et aux âmes sensibles de sauter 5 ou 6 pages. Et je reviens le braque. « Montre-toi donc, eh, grand fendu, cudo, feignant, pourri, si t'es pas un lâche, montre-la ta sale gueule de peine-cu, va !»« Eh, gros crevure, approche un peu toi aussi pour voir, » répliqua l'ennemi. « C'est la steak dégué, » fit Camus, « mais je vois encore tous les gueules, et Bancal, et Tati, et Mig la lune. Ils sont une chier !» Ce petit renseignement entendu, le grand Lebrac continua. « C'est toi, hein, merdeux, qu'a traité les Longevernes de couilles molles. Je te les y fais voir, moi, si on est des couilles molles. Il n'y a pas fallu tous vos panter pour effacer ce que j'ai marqué à la porte de votre église. C'est pas des foireux comme vous qu'on aurait osé faire autant. Approche donc un peu, puisque t'es si malin, grand gueulard. T'as que de la gueule et les gigues pour t'en sauver. Fais seulement la moitié du chemin et pâtier 19. C'est pas parce que ton père t'a tes les couilles des vaches sur les champs de foire que t'es devenu riche. Et toi, ton bacu que vous restez tout crévi d'hypothèque, hypothèque toi-même, traîne besache. Quand sais-tu que tu vas reprendre le fusil de toile de ton grand-père pour aller assommer les portes à coups de pater? C'est pas chez nous comme à Longeverne, où que les poules crèvent de faim en pleine moisson. Tant qu'à Velleran, c'est les poux qui crèvent sur vos caboches. Mais on sait pas si c'est de faim ou de poison. Vellerie pourrie, traîne la mûrie, à vos lévis. Ouais, 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 firent derrière son chef le cœur des guerriers Longeverne, incapable de se dissimuler et de contenir plus longtemps son enthousiasme et sa colère. La steak des guerres riposta. Longeverne, pique merde, tas de merde, montez sur 4 pieux, les diables te tirent à eux. Et le cœur des Velleran applaudit à son tour frénétiquement le général par des prolongé et euphorique. Des bordées d'insultes furent jetées de part et d'autre en rafales et en trombes. Puis les deux chefs, également surexcités, après s'être lancés les injures classiques et modernes, « Enfonceurs de portes ouvertes, étrangleurs de chats par la queue, etc., etc. » revenant au mode antique, se flanquèrent à la face avec toute la déloyauté coutumière des accusations les plus abracadabrantes et les plus ignobles de leur répertoire. « Eh, t'en souviens-tu quand ta mère pétait dans le rata pour te faire de la sauce ? Et toi, quand elle demandait les sacs aux chartreurs de taureaux pour te les faire bouffer en salade ? Rappelle-toi donc le jour où ton père disait qu'il aurait plus d'avantage à élever un veau qu'un petit merle comme toi. Et toi, quand ta mère disait qu'elle aimerait mieux faire téter une vache que ta sœur, parce que ça serait au moins pas une putain qu'elle élèverait. Ma sœur, ripostait l'autre qui n'en avait pas, elle balbeure et quand elle battra la merde, tu viendras lécher le bâton. Ou bien, elle est pavée d'ardoise pour que les petits crapauds comme toi n'y puissent pas grimper. Attention, prévient Camus, voilà le touet-gueule qui lance les pierres avec sa fronde. Un caillou en effet siffla en l'air au-dessus des têtes, auxquels des ricanements répondirent. Et des grêles de projectiles rayèrent bientôt le ciel de part et d'autre. Cependant que le flot écumeux et sans cesse grossissant d'injures salaces continuait de fluctuer du gros buisson à la lisière, le répertoire des uns comme des autres étant aussi abondant que richement choisi. Mais c'était dimanche. Les deux parties étaient vêtues de leurs plus beaux affutiaux, et nul, pas plus les chefs que les soldats, ne se souciait d'en compromettre l'ordonnance dans des corps à corps dangereux. Ainsi, toute la lutte se borna-t-elle ce jour-là à cet échange de vues, si on peut dire, et à ce duel d'artillerie qui ne fit d'ailleurs aucune victime sérieuse, pas plus d'un côté que de l'autre. Quand le premier coup de la prière sonna à l'église de Velleran, l'Aztèque des guets donna à son armée le signal du retour, non sans avoir lancé aux ennemis avec une dernière injure et un dernier caillou cette suprême provocation. « C'est demain qu'on vous y retrouvera, les couilles molles de Longeverne. »« Tu fous le camp, hé, lâche !» railla le braque. « Attends un peu, oui. Attends un demain. Tu verras ce qu'on vous passera, tas de peine-cul. » Et une dernière bordée de cailloux salua la rentrée des Velleran dans la tranchée du milieu qu'il suivait pour le retour. Les Longevernes, dont l'horloge communale retardait ou dont l'heure de la prière était peut-être reculée, profitèrent de la disparition des ennemis et prirent pour le lendemain leur disposition de combat. Tintin eut une idée de génie. « Il faudra, dit-il, se caler 5 ou 6 dans ce buisson-là, avant qu'il n'arrive, et ne bouger ni pied ni patte, et le premier qui passera pas trop loin lui tomber sur le rab et s'en sauver avec. » Le chef d'embuscade, immédiatement approuvé, choisit parmi les plus lestes les 5 qui l'accompagneraient, pendant que les autres mèneraient l'attaque de front, et tous rentrèrent au village, l'âme bouillonnante d'ardeur guerrière et assoiffée de représailles.